Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission Tout est politique, le carnet de bord de la bataille culturelle sur Radio Courtoisie. En ce vendredi saint, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes pascales. Nous sommes ensemble de midi à 13h30 pour une émission consacrée au livre d'Alexandre Delval et Nicolas Mirkovic. Nous aborderons la situation géopolitique et internationale, et notamment l'Iran, ainsi que la crise d'identité française. Chers auditeurs, vous pouvez participer à l'émission en écrivant au courriel courtoisie@rc.fr ou téléphoner au 01 46 51 00 85. 01 46 51 00 85. En amour, chacun connaît le mot cocu. Eh bien, il s'applique également en politique. Oui, à cette heure, et ce depuis le 28 février, date de l'intervention en Iran, MAGA est cocu, MAGA est mort. Rappelons-le, pendant ces deux campagnes électorales, Trump assène à longueur de meetings, impétueux, son attachement à l'isolationnisme américain. Les USA doivent se recentrer, halte aux interventions militaires, aux ingérences coûteuses et incomprises. Allié historique, il faudra vous passer du sauveur Oncle Sam, toujours en première ligne, pour défendre avec un narratif bien huilé la démocratie et les droits de l'homme. Trump enterre alors l'illustre Project for the New American Century des néoconservateurs et tenez-le vous pour dit, l'Amérique pensera avant tout à l'Amérique. Oui, rien ne préfigurait un tel changement de pied, une déception si amère. Certes, personne n'oublie les coups de menton de Trump pour impressionner le Canada et le Groenland. Mais le trumpiste moyen défendait encore son président. C'est de la gueule, Trump avec sa gouaille légendaire teste sa proie. Puis ce fut le Venezuela, l'opération éclair, chirurgicale, visant à débarrasser ce voisin, ou mieux, à débarrasser l'Amérique d'un dictateur encombrant dont la gueule ne revenait pas. Alors nous sommes allés chercher au tréfonds de notre conscience de maigres arguments, alambiqués, feignant la bonne foi, pour légitimer un tel coup de force et maintenir la cohérence de la doctrine trumpiste, à savoir la défense des frontières de l'Amérique et la protection du peuple vénézuélien. Puis, il y eut le coup de trop, l'Iran. La coupe est pleine. Trump a trahi, Trump est tenu ou a perdu une roue. Happé par le Sénat, les néocons, Israël, le tout-puissant complexe militaro-industriel, la CIA, je ne sais, Trump met un genou à terre, reniant toutes ses promesses. L'État profond reprend la main. L'Amérique est en ébullition. Les soutiens historiques de première ligne, tenant de l'America First, Tucker Carlson, Candace Owen, Nick Fuentes, Joe Rogan, Clayton Morris, jettent l'éponge, abandonnent le navire Trump et passent à l'offensive avec la même pugnacité qui les habitait quand il s'agissait de le porter au pouvoir. Et quand Trump encourage les Iraniens à se soulever, ce sont les Américains qui protestent lors de manifestations historiques. L'Amérique a déclenché la plus impopulaire des guerres, a mis un pied dans un bourbier incontrôlable, mais pas seulement. Elle embarrasse ses alliés, enflamme le Moyen-Orient et provoque la Chine et la Russie. Alors que Trump annonçait une guerre courte, voilà que nous en sommes à plus d'un mois. Alors que la supériorité militaire semblait assurée, voilà que chacun découvre un territoire iranien criblé de tunnels et de missiles enfouis. Alors que la décapitation du leader suprême semblait décisive, voilà que l'organisation politique iranienne décentralisée perdure. Et comble géopolitique, voilà qu'après avoir chassé le Shah d'Iran pour y mettre un mollah il y a 50 ans, les USA parlent de chasser le mollah pour y placer le fils du Shah. Bref, l'impréparation israélo-américaine saute aux yeux et le temps joue pour l'Iran, sans compter l'intervention hasardeuse de troupes au sol. Qui ne souhaite pas la mise à bas d'un régime théocratique totalitaire tel que l'Iran, certes, mais l'expérience enseigne que toutes les interventions militaires pour exporter la démocratie ont échoué. Enfin, cette guerre crée un chaos mondial. Il compromet l'approvisionnement énergétique, déstabilise les marchés financiers, fragilise les alliés arabes des USA, attise l'hypothèse d'une escalade nucléaire et fait trembler le monde. À cette heure, plusieurs questions restent posées. Quelles conséquences géopolitiques? Comment Trump peut-il s'en sortir? En partant la queue basse ou en escaladant avec le risque d'un enlisement sans fin? Une troisième guerre mondiale est-elle possible? Et question fondamentale, pourquoi une telle intervention? Quels en sont les objectifs? Avant d'en parler avec Alexandre Delval, géopolitologue, un petit son.
Comment Donald Trump est passé de ce discours?
The United States cannot continue to be the policeman of the world. We don't want to do that. We want to protect our country.
They said he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars.
I am the candidate of peace. I am peace.
À celui-ci.
The United States military began major combat operations in Iran.
Donc j'ai donc l'honneur de recevoir Alexandre Delval, géopolitologue, professeur de géopolitique à l'IPAG, membre du laboratoire de recherche CERDAF de l'Université Côte d'Azur. Vous avez écrit de nombreux livres, notamment sur la Syrie, la Turquie, le totalitarisme islamiste, et vous venez d'écrire, je le montre aux auditeurs, le nouvel ordre post-occidental, comment la guerre en Ukraine et le retour de Trump accélèrent la grande bascule géopolitique aux éditions L'Artilleur. Merci Alexandre d'être avec nous aujourd'hui. Alors vous avez entendu ce son, cette espèce de dichotomie entre le discours d'avant et le discours d'après. Donc Alexandre, la première victime de la guerre est la vérité. Que se passe-t-il aujourd'hui sur le terrain ?
Sur le terrain, ça dépend quel terrain, mais nous sommes en fait, c'est la thèse de mon livre, dans une sorte de pré-Yalta. Ce que j'appelle un pré-Yalta, c'est pas Yalta. C'est la phase d'avant, et la phase d'avant, le partage du monde, ce sont les différents empires, les différents acteurs qui ont de la puissance et de la profondeur stratégique, qui essaient de maximiser leur profondeur stratégique, de l'optimiser, de l'agrandir, jusqu'à ce qu'il y ait un point où les grands se rendent compte qu'ils ne peuvent pas s'autodétruire, et ils vont accepter des nouvelles limites. En fait, les limites entre les différentes zones d'influence vont changer, et ça se passera soit par la négociation ou les conflits indirects, comme c'est le cas en ce moment, tantôt négociation, tantôt conflit indirect, par procuration, soit ça se passera, j'allais dire, moins gentiment, de manière directe, dans un engrenage de la guerre que personne ne contrôle, la guerre. Vous savez, le fameux brouillard de la guerre, Clausewitz a beaucoup écrit là-dessus, la guerre ne commence jamais au moment où on le veut, et en général, des guerres de haute intensité ne sont même pas vraiment souhaitées. Et donc, c'est le fameux dilemme de sécurité dont parlent les réalistes américains, dont je fais allusion dans mon livre. Voilà, donc nous sommes dans cette phase de pré-Yalta, qui va se conclure avec soit une grande négociation, c'était le programme de Trump, d'où le fait que je l'ai mis en filigrane dans la couverture de mon livre, Trump, un homme qui pouvait être l'homme du monde multipolaire, qui allait maximiser la puissance américaine dans sa zone hémisphérique privilégiée et un peu dans le Golfe, et bien sûr renforcer le vassal européen en lui déléguant une partie de son fardeau. Mais sur le reste, il avait l'air d'être capable de négocier avec les Russes et les Chinois. Ce qu'il se passe en Iran n'est pas du tout imprévisible. Monsieur Trump a parlé du renversement du régime iranien depuis une trentaine d'années, même s'il a l'air d'être isolationniste. Dans mon livre, il y a un chapitre au début sur Trump. Il a toujours été soi-disant anti-interventionniste pour séduire les électeurs MAGA et ceux qui sont déçus des interventions. Mais dans son premier mandat, il avait fait revenir les pires néoconservateurs. Et dans son deuxième mandat, il est encore proche de certains néoconservateurs qu'il ne montre pas trop, mais on voit bien que le trumpisme n'est pas du tout un isolationnisme. Voilà, je ne vais pas répondre trop longtemps, mais le trumpisme, on n'a pas à en être déçu. C'est M. Trump, lors de son premier mandat, qui avait pris des gens comme Nikki Haley, Bolton, extrêmement interventionnistes. C'est lui qui avait le plus armé les Ukrainiens. Et c'est lui qui avait le plus lutté contre le gaz, l'approvisionnement européen en gaz russe. Et c'est lui qui avait le plus exercé de pression pour empêcher la réalisation de Nord Stream 1 et 2. Le vrai Trump, on le connaît, il n'est pas du tout isolationniste. Il est pour des interventions moins longues, bien sûr. Il est contre le prosélytisme de l'OIL, l'Ordre international libéral. Il est contre le fait de répandre partout la démocratie, ça c'est vrai. Il est moins libéral, prosélyte que les autres. Il est moins globaliste, il n'est pas mondialiste, mais il est tout de même impérial. Il est impérialiste. C'est une sorte, et je conclue là-dessus, sa doctrine géopolitique, c'est un impérialisme déglobalisé. Un empire américain, mais non globalisé. C'est-à-dire qu'il va se recentrer sur ses zones d'intérêt privilégiées et qui ne va pas chercher à être le gendarme du monde entier.
Alors, j'ai une double question, Alexandre. La première, c'est, vu ce que vous dites, il n'est pas isolationnisme. Alors, qu'est-ce qu'il distingue aujourd'hui dans sa manière de voir les choses des néocons? En deux mots, est-ce
Oui.
qu'il y a encore une différence? Et la deuxième
Oui.
question, c'est la fin de mon édito. Pourquoi une telle intervention? Quelle est la première cause? Ou alors le
Alors, il
faisceau
y
de
a une
cause?
très grande différence avec les néocons classiques. Vous savez que les néocons classiques, beaucoup d'études ont été faites sur eux, réalisées, ce sont souvent des anciens gauchistes qui ont ce côté prosélyte de vouloir répandre le progressisme, le libéralisme, ce que les Américains réalistes appellent liberal hegemonism, ou liberal hegemony. Le mot libéral en Amérique n'étant pas du tout synonyme du mot libéral en France. Vous, en
Mais
France, vous êtes
Trump
libéral.
n'est-il pas
En
un
Amérique,
ex-démocrate
parce que pour
aussi?
nos auditeurs, en Amérique, le libéralisme, c'est plutôt le progressisme. C'est une sorte de gauchisme chic. Et donc, les néocons sont souvent restés, comme le gauchisme libéral, adeptes d'une vision que l'on doit imposer au reste du monde. On veut que tout le monde soit woke, tout le monde soit progressiste, tout le monde soit libéral, tout le monde soit libéral-démocratique. On veut partout défendre les minorités sexuelles, le déconstructionnisme. Ça, les néocons sont en fait très proches des démocrates interventionnistes. C'est la même chose. Et l'idéologie progressiste, libérale, gauchiste est la même. Tandis que des gens comme M. Trump, et encore plus d'autres comme Vance, peuvent être parfois pour des guerres. Mais ils ne veulent absolument pas répandre des valeurs progressistes parce qu'eux-mêmes ne sont pas progressistes. Alors Trump l'a été, mais une partie de son entourage l'est beaucoup moins. Le Trumpisme n'est pas un néoconservatisme. Le Trumpisme n'est pas isolationniste non plus. Le Trumpisme est entre les deux. On intervient quand c'est strictement nécessaire, mais la grande différence avec les néocons, on n'intervient pas pour répandre la démocratie. Regardez ce qu'il a fait au Venezuela. Monsieur Trump, au Venezuela, préférer 1000 fois s'entendre avec la numéro 2 de la dictature gauchiste vénézuélienne plutôt que de répandre la libérale démocratie en mettant au pouvoir, par exemple, la prix Nobel de la paix ou la personne qui a gagné les élections. On le voit bien en Iran également. Trump n'a pas arrêté de minimiser l'importance de l'héritier du trône du Shah, Reza Pahlavi, le prince. Il continue de dire qu'il y a des interlocuteurs à l'intérieur du régime et des pasdarans. Ce qu'il appelle le régime change en Iran, dont il s'est vanté récemment, c'est pas un changement complet de régime pour instaurer la démocratie et des élections. Ce qu'il veut, c'est quelqu'un du régime, plutôt un pasdaran qu'un mollah, qui va être un peu moins théocratique, puisque ce sera plus un mollah mais un pasdaran. Il comptait sur Larijani, mais les Israéliens ont voulu l'éliminer. Maintenant, il compte sur Ghali Baf, le nouvel homme fort des Pasdaran, qui est président du Parlement. Et peut-être qu'il va être tué aussi. Mais il veut toujours un scénario à la Rodriguez. C'est-à-dire, Rodriguez, pour nos auditeurs, c'est la numéro 2 du régime de Maduro qui a remplacé Maduro. Je pense que c'est toujours ce qu'il préfère en Iran. Donc, c'est ça qui le distingue des néocons. Les néocons voulaient une nouvelle carte du Moyen-Orient. Ils voulaient diviser l'Arabie saoudite, la Turquie, l'Iran en plusieurs morceaux.
C'est vrai, oui,
Ils voulaient
absolument.
répandre la démocratie en Irak, ce qui a permis aux chiites de prendre le pouvoir en Irak et à l'Iran de prendre une partie, de contrôler une partie de l'Irak, ce qui était complètement contre-intuitif. La doctrine des néocons, c'est vraiment rester très longtemps underground. Pour répandre la démocratie, le libéralisme, et pas uniquement pour défendre des intérêts. Voilà, pour être plus clair, le Trumpisme intervient quand il y a des intérêts concrets, sans faire croire qu'on répand la démocratie, sans vouloir répandre les droits de l'homme, et en se contrefichant d'associer l'ONU, qui pour lui est un machin, comme pour De Gaulle. Donc c'est quand même une grande différence. On intervient, mais on ne fait pas d'ingénierie sociale. Et on ne fait pas de révolution de velours, de révolution de couleurs, comme les démocrates l'ont fait ou les néocons l'ont fait dans l'ex-Union soviétique, en Europe de l'Est, en Eurasie, ou alors avec le printemps arabe. Le printemps arabe était une folie de Obama qui consistait à répandre des mouvements, des forces démocratiques libérales dans tous les pays arabes, y compris ceux qui étaient alliés de l'Amérique. C'est quand même une grande différence. Trump ne fera jamais des révolutions arabes pour renverser toutes les dictatures, y compris amis. Il ne pense pas un seul instant à renverser la dictature monarchique d'Arabie saoudite. Donc c'est quand même une très très grande différence. Alors, ça veut dire que c'est mieux, ça reste guerrier, et il est pris dans un engrenage en Iran sur lequel on reviendra, bien sûr.
Alors, vous dites s'il y a un intérêt. Il intervient s'il y a un intérêt. Donc, je repose ma question parce que beaucoup de gens se posent cette question, moi-même d'ailleurs. L'intérêt aujourd'hui, est-ce que c'est le pétrole? Est-ce que c'est renverser le régime? Est-ce que c'est mettre fin à un régime qui est une menace, pour reprendre votre expression dans votre livre, une menace existentielle contre Israël? Est-ce que c'est le dollar? Quelle est la vraie raison, selon vous? Ou le nucléaire, pardon, la dernière, le nucléaire.
Alors justement, j'aime beaucoup votre question parce que en géopolitique, moi je m'évertue à dire à mes étudiants qu'il n'y a jamais un seul paramètre. Vous savez, c'est comme une maladie. Vous avez une maladie parce qu'il y a la pollution, il y a les particules fines, il y a la génétique, il y a la nourriture, il y a le comportement, il y a le stress, il y a plusieurs paramètres. C'est pour ça que je ne suis pas dans le complotisme, parce qu'il n'y a jamais une seule explication. Alors les uns vont dire c'est que le dollar. La redollarisation, c'est pas faux. Le Venezuela et l'Iran, l'une des raisons de l'intervention américaine, je ne parle pas d'Israël, pour qui c'est une autre raison, mais pour l'Amérique, il y a l'idée d'empêcher la dédollarisation en cours, qui est l'une des conséquences de la guerre en Ukraine, c'est l'accélération du monde multipolaire et de la dédollarisation, puisque le dollar maintenant est associé à des sanctions, or une monnaie associée à une incertitude et à un risque, elle perd toute sa valeur et donc beaucoup de pays veulent se passer des systèmes de paiement et du dollar américain et même de l'euro pour bâtir un système rival. Ce qui fait très peur à l'Amérique puisque si on commence à vendre les énergies en dehors du dollar, c'est l'un des piliers fondamentaux de la puissance globale américaine qui disparaît ou qui s'amenuise. Donc la volonté de contrôler, non pas couper, contrairement à ce que j'ai entendu, beaucoup disent « oui, il veut couper, il a réussi à couper ». L'approvisionnement chinois en pétrole vénézuélien, c'est faux. Il y a des bateaux qui partent du Venezuela chaque jour vers la Chine. De même que les bateaux continuent à partir plus qu'avant de l'Iran vers la Chine. L'idée n'est pas de couper, sinon ce serait déjà fait autrement. L'idée, c'est de contrôler des réserves de pétrole un peu congelées à cause des sanctions pour qu'un jour, elles soient disponibles sur le marché. Et comme on les contrôlera à travers une entente avec un régime restructuré, comme Rodriguez au Venezuela, eh bien, on aura un moyen de couper le robinet. On ne le coupe pas, mais on aura une pression. Et surtout, on pourra exiger qu'au moins une partie continue d'être vendue en dollars. Ça, c'est la dimension Venezuela, Iran, pétrole, gaz, extrêmement importante. Deuxième raison, il est vrai que si l'Iran devenait une puissance nucléaire militaire, ça entraîne immédiatement un programme nucléaire militaire en Turquie, et en Arabie Saoudite.
Mais
et
même le nucléaire, Alexandre, c'est un serpent de mer. Ça fait 25 ans qu'on en parle, non?
Oui, mais pour l'instant, l'Iran n'a pas obtenu la possibilité de véritablement mener à son terme une dotation du pays en armes nucléaires projetables. Il y a peut-être un embryon de bombe possible, mais il n'a pas encore la dotation d'un missile par une ogive nucléaire. Donc l'Iran n'est pas encore capable de projeter des projectiles dotés de bombes nucléaires. Et donc ça n'est pas encore arrivé. Et pour Israël, il est existentiel que ça n'arrive pas, mais également pour le club des pays nucléaires. Et là, c'est pas connu, mais on oublie souvent de dire que la Chine et surtout la Russie ne veulent absolument pas un Iran nucléaire. Donc l'Iran nucléaire dérangerait tout le monde puisque ça crée une prolifération, ça multiplierait les pays membres du club formel ou informel du nucléaire. Il y a 5 pays membres du club formel et d'autres pays qui ont le nucléaire, même s'ils n'étaient pas prévus d'être dans le club des pays autorisés à l'avoir. Les pays autorisés à l'avoir, c'est les pays du Conseil de sécurité permanent des Nations Unies. Donc, il y a la dimension nucléaire pour Israël. Il y a aussi, bien sûr, les pressions Israël. Il est clair qu'Israël, non pas parce qu'elle exerce des pressions à cause d'un lobby, mais Israël a dit aux Américains, si vous n'y allez pas, on y va quand même. Et Trump ne peut pas ne pas aider son allié américain, si son allié israélien, si Israël bombarde l'Iran et s'occupe des proxys, et si Israël reçoit de nombreux projectiles, et jusqu'à ce que ça devienne une menace existentielle, l'Amérique ne peut pas se permettre aujourd'hui encore de laisser son allié israélien tout seul avec un épuisement de missiles. Vous savez qu'en juin dernier, l'Amérique s'était joint à Israël et avait sonné la récréation au moment où Israël n'avait plus assez de missiles TAD.
Pour la guerre des 12 jours.
La guerre des 12 jours. Donc, il y a l'effet d'entraînement israélien, il y a la menace existentielle pour Israël, c'est déjà différent des intérêts américains, qui, eux, ont plutôt un intérêt de redollarisation, de contrôle des réserves d'énergie. Vous savez, François Attual, le grand géopolitologue, parlait souvent de contrer et contrôler. La géopolitique, c'est les rapports de force entre puissances. C'est les conflits de pouvoir sur les territoires, mais c'est aussi contrer et contrôler. Bien entendu, il y a aussi l'aspect Chine-Russie, affaiblir un partenaire de la Chine et de la Russie, mais là, c'est pas du tout atteint. Pour le moment, la Russie est la grande bénéficiaire tactique à court terme de cette guerre, puisque les sanctions sont levées jusqu'au 6 avril, et peut-être même au-delà pour les tankers qui étaient chargés. Et le pétrole monte, donc même le prix plancher qu'on voulait imposer aux Russes, qu'on n'a pas réussi à imposer, 60 puis 45 dollars, n'est plus du tout respecté. Donc les Russes vendent plus de pétrole et ils le vendent plus cher. Donc c'est au moment où l'économie russe commençait à souffrir des restrictions, ou au moment où l'Inde commençait à un peu moins importer du pétrole russe, elle en importait toujours, mais moins qu'avant, et la grande raffinerie indienne Reliance était obligé de ne plus trop en acheter et en raffiner. C'était d'autres raffineries moindres qui le faisaient. On voit bien qu'aujourd'hui, l'Inde a une exception et même l'Union européenne aurait pu continuer à importer du gaz en plus grand volume et du pétrole. On voit bien que la Russie est la grande bénéficiaire et la Chine continue à importer du pétrole iranien. Donc, à court terme, une autre dimension, j'ai parlé du nucléaire, j'ai parlé du contrôle des réserves de pétrole et de la redollarisation. Il y avait une dimension anti-chinoise, anti-russe, qui n'a pas été atteinte, puisque pour l'instant, les Chinois et les Russes, avec les Indiens, qui continuent eux aussi à avoir de l'approvisionnement en pétrole iranien, puisque les Iraniens n'ont pas bloqué Hormuz, et c'est faux ce que l'on dit dans les médias, Hormuz n'est pas bloqué, Hormuz est bloqué pour les pays non amicaux, amis.
Donc il est bloqué pour nous.
Israélo-américain. Hormuz n'est bloqué que pour les pays, soit qui ne veulent pas payer, en yuan d'ailleurs, un droit de passage, soit les pays, bien sûr, les pays qui peuvent passer sont les pays amis comme la Chine, la Chine, et bien sûr des pays plus ou moins amis, neutres, neutralistes comme l'Inde, mais aussi d'autres pays d'Asie, y compris le Pakistan. Donc il y a plein de pays qui sont. Et d'ailleurs, ce qui est surprenant, il y a même les Grecs, les armateurs grecs ont trouvé un accord avec les Iraniens ainsi que les Turcs. Donc on a pas mal de pays, y compris un pays membre de l'OTAN, la Turquie, et un autre pays de l'OTAN, la Grèce, enfin les armateurs grecs. On a pas mal de pays, pas uniquement anti-occidentaux, qui continuent à passer par Hormuz. Et donc on voit bien que le but des Américains pour l'instant n'a pas été atteint. Et c'est ça l'engrenage de la guerre. Ça va être compliqué d'accepter pour Trump d'arrêter la guerre d'un coup, sachant que maintenant les Iraniens non seulement ne bloquent pas tout Hormuz, mais ils demandent un droit de passage en violation du droit international. Certains pays ont le droit de demander un passage payant, d'autres non. Il y a des accords internationaux, c'est comme les détroits turcs. Et donc on voit bien que pour l'instant, c'est très difficile pour Trump de partir, puisque pour l'instant, il a même perdu en contrôle, puisqu'on contrôle moins Hormuz qu'avant, dans la mesure où, de facto, l'Iran peut bloquer qui elle veut, grâce à des drones, les armes du pauvre, hein, des petits drones. Ça suffit pour endommager les tankers et encore plus des bateaux qui portent du gaz liquéfié. Voilà, j'étais un peu long. Mais en gros, il y a plusieurs raisons à cette intervention. Et je crois que la dernière, c'est la démocratie. Le dernier souci de M. Trump, contrairement aux néocons, c'est répandre la démocratie. Même les Israéliens, à travers l'ambassadeur israélien en France, José Zarka, même les Israéliens, ceux qui sont un peu moins politiques que Netanyahou, reconnaissent que le but, ce n'est pas de répandre la démocratie, ce n'est pas l'objectif de guerre, c'est un objectif politique qui est une cerise sur le gâteau si ça arrive et si le régime devient malléable. Mais ça peut être aussi, comme l'avait dit l'ambassadeur israélien à Radio J, Josué Zarka, ça peut être aussi amener le régime iranien à se comporter différemment. Donc le but de guerre maximale n'est pas la démocratie, ni pour l'Amérique, ni même pour Israël, qui préférerait un régime change plus que l'Amérique. Dans les deux cas, l'objectif, c'est détruire le nucléaire, détruire les rampes de missiles, les rampes de lancement de missiles, détruire les usines de fabrication de missiles et de drones et d'antimissiles, empêcher l'Iran de s'approvisionner en antimissiles russes et chinois, ce qui est raté, et détruire la marine. Souvent, M. Trump revient là-dessus, détruire la marine iranienne pour pouvoir contrôler Hormuz. Le problème, c'est que même si la marine iranienne est détruite, toutes les petites installations sur les côtes, sur plus de 1 000 km de long, permettent à l'Iran de rendre non sûre la zone d'Hormuz en atteignant avec des projectiles low cost, mais aussi des mines mouvantes ou des mines fixes sous l'eau. Il y a moult possibilités pour l'Iran pour continuer à rendre non sûr Hormuz. Et c'est pour ça que Hormuz n'est pas vraiment bloqué. Mais le fait qu'il y ait une incertitude et un risque de subir des attaques de drones ou de mines, rien que l'idée fait que les assureurs ont fait augmenter la prime de risque à un niveau incroyable, et donc les armateurs ne prennent pas le risque de partir. Donc il y a un engorgement et il y a des puits de pétrole qui ont été rebouchés, parce qu'une fois que tous les bateaux sont chargés, on ne peut pas stocker indéfiniment le pétrole. Certains pays du Golfe ne produisent, ont cessé la production de certains puits. Et le fait qu'on ait bombardé des eaux, des usines de dessalement des eaux, mais aussi des zones de pétrole et de gaz et des usines en Iran. L'Iran, c'est ce que j'appelle l'ukrainisation de la guerre. L'Iran a riposté en frappant aussi des objectifs énergétiques, mais et aussi de dessalement d'eau sur les pays du Golfe. Donc la guerre aujourd'hui est dans une phase de non-contrôle qui n'était pas prévue au départ, puisque la même erreur que Poutine en Ukraine, Trump a sous-estimé l'ennemi et a cru qu'une opération éclair allait sidérer le pays et le gouvernement et allait provoquer un scénario à la Rodriguez. Ça ne s'est pas passé comme on l'a cru, puisque chaque mollah, et je termine, et chaque pasdaran, les gardiens de la révolution éliminés, a 4 ou 5, pour les mollahs, c'est 10 niveaux de remplacement. C'est-à-dire qu'on peut encore en tuer 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10 ou même 15, il y aura encore un numéro 2 qui prendra le pouvoir du numéro 1 éliminé. Donc l'Iran est beaucoup plus résilient qu'on l'avait cru. Je ne dis pas ça parce que ça me fait plaisir, je le précise, parce que
Oui, mais
maintenant,
on n'est pas là pour faire
on
plaisir,
ne
on
peut
est
plus
là
faire
pour
de
dire la
politique.
réalité.
Aujourd'hui, on ne peut plus faire de géopolitique réaliste, on est accusé
Oui,
de...
j'ai compris. Non, non, mais nos auditeurs l'ont compris. Je
Voilà,
pense
une
qu'ils
fois
savent qu'on n'est pas là pour dire.
une...
Allez-y.
Voilà, une fois une opposante iranienne me disait, vous n'avez pas le droit de dire ça, vous allez décourager. Mais le but d'un géopolitologue,
Oui,
c'est pas
nous sommes d'accord.
encourager ou décourager. Voilà, donc, c'est pas que je souhaite que Trump échoue, mais la situation n'est jamais comme on le croit. Dans leur enseignement, beaucoup disent, un plan est fait pour foirer. C'est pour ça qu'il faut des plans numéro 2, 3, 4, 5, 6. Et là, la CIA l'avait averti, le Pentagone avait averti, Joe Kent, qui a démissionné, l'avait averti, Tulsi Gabbard avait averti, la patronne de la coordination du renseignement. Voilà, tous les niveaux. Et Dan Kane, le chef d'état-major de l'armée américaine, avait également averti, non pas du fait qu'il fallait pas le faire, mais qu'il y avait des risques énormes qu'il ne fallait pas sous-estimer, y compris le blocage de l'économie mondiale et un choc pétrolier pire que celui de 73 et de 1979 réunis.
Alors, merci Alexandre. Je rappelle à nos auditeurs que nous sommes en ce moment avec Alexandre Delval, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Nouvel Ordre post-occidental, comment la guerre en Ukraine et le retour de Trump accélèrent la grande bascule géopolitique que je montre à l'écran aux éditions Artilleur. Achetez-le, c'est passionnant. Vous allez pouvoir vous plonger notamment avec l'actualité dans la guerre qui se passe en ce moment entre l'Iran, Israël et les États-Unis. Et d'ailleurs, à ce propos, Alexandre, vous avez... Page 341, c'est très instructif. Quel scénario pour l'avenir? Et là, vous mettez quatre scénarios.
Oui, j'ai
Comment...
repris.
Allez,
Pardon.
allez-y, allez-y.
Non, pardon.
J'allais vous poser la question au regard des quatre scénarios que vous aviez envisagés. Comment vous inscrivez ce qui se passe au regard de vos quatre scénarios?
Alors, j'ai fait des scénarios dans le livre parce que oralement, je me suis trompé, par exemple, sur la guerre en Iran. Je pensais que Trump trouverait un deal. Et donc, quand on est dans le feu de l'instant, on est presque sûr de se tromper, ou alors c'est du poker. Par contre, dans la méthode géopolitique, à l'écrit, moi, je prends des scénarios,
Vous n'êtes
parce
pas
que comme on
trompé,
est sûr d'un scénario.
je vous arrête, vous n'êtes pas trompé, parce que le scénario 3, c'est ce qui se passe. Le scénario de la. Là, vous dites les frappes israéliennes, etc. Dans le scénario 3, en fait, vous aviez plus ou moins envisagé ça.
Ah oui, alors pardon, je faisais allusion aussi à la guerre en Ukraine. Oui, comme
Non, je
je
parlais de la
disais,
guerre en Iran.
absolument, pour la guerre en Iran comme pour la guerre en Ukraine, à chaque fois j'ai pris trois ou quatre scénarios, parce qu'on n'est jamais sûr d'aucun scénario. C'est pour ça que je disais, on se trompe plus facilement à l'oral qu'à l'écrit quand on utilise des méthodes géopolitiques. Et le scénario 3 est en train de se réaliser. Mais ça, n'importe qui le savait. Comme je l'ai dit, tous les patrons du renseignement et les responsables militaires ont averti Monsieur Trump, y compris la CIA, et même pour l'Ukraine. Hein. Le point commun entre l'Ukraine et l'Iran, dans les deux cas, la CIA ou même la RAND Corporation, vous savez, la
Oui,
fameuse
bien sûr. Ben
société
vous pouvez
d'analyse.
rappeler pour nos auditeurs ce que c'est que la Rand Corporation, c'est instructif.
La RAND Corporation, elle est souvent composée d'anciens militaires, d'anciens de la CIA, d'analystes, de professeurs, et elle produit des rapports qui sont souvent écoutés, lus et parfois appliqués par le Pentagone et la Maison-Blanche. Et la RAND Corporation, soit pour l'Iran, soit pour l'Ukraine, à chaque fois, comme la CIA, qu'on accuse toujours de tous les maux, mais la CIA n'est pas si interventionniste que cela. Quand un patron de la CIA était à la tête des États-Unis, Monsieur George Bush père, il n'a pas voulu renverser Saddam Hussein, parce que il a une formation géopolitique et il connaît les différents scénarios possibles, et il sait que ça peut être pire parfois que si on ne fait pas que si on fait cette chose. Et donc, le Trump n'a pas écouté les responsables, mais on savait que la guerre en Iran ne pouvait que dégénérer si on voulait intervenir, et surtout au moment où il y avait des manifestations importantes. Je m'explique. Les manifestations étaient en train de prendre, la sauce était en train de prendre. Et on s'est rendu compte, avec le recul de 50 ans d'histoire, que les Américains ont beaucoup plus souvent réussi à renverser des régimes par des techniques de subversion, de manipulation psychologique et d'ingénierie sociale pacifique que par des guerres. Ça veut dire quoi? Le printemps arabe, par exemple, ou les révolutions de couleur dans les pays d'Europe orientale ou en Eurasie n'ont pas toujours réussi. Parfois, ça a dérapé en guerre civile, comme en Ukraine, au Yémen ou en Syrie. Mais ça a souvent marché grâce à des opérations d'agit-propre, d'enrôlement de jeunes, de manifestations pacifiques, ce qu'on appelle la révolution de velours ou les révolutions par action pacifique. Et ça marche plus souvent avec ce genre de technique pacifique, donc en gros d'influence et d'ingénierie sociale et politique, ça marche plus souvent comme ça que par des guerres. Donc on savait parfaitement que la guerre en Iran pouvait déclencher un scénario incontrôlable, et en plus c'était un cadeau pour le régime, puisque si les manifestations avaient continué, le principe, c'est que le régime est discrédité dans son utilisation de la force, et de plus en plus de gens perdent la loyauté envers le régime. Et c'est la théorie de Gene Sharp. Gene Sharp, c'est le concepteur des révolutions de velours. On fait baisser la loyauté, et même une dictature finit par tomber quand il y a des millions de personnes dans la rue. Exemple, les frères musulmans en Égypte, 30 millions de personnes dans la rue contre eux, ils n'ont pas résisté. Mais l'intervention militaire radicale, en plus en bombardant des hôpitaux, des écoles, des eaux des usines de dessalement d'eau, des lieux, des usines civiles, des pharmacies, des usines chimiques, etc. Eh bien, tout cela a provoqué une réaction nationaliste chez une partie des Iraniens, je ne dis pas tous. Certains restent encore anti-régime et même carrément pour une guerre externe, mais on pense qu'à trois tiers, il y a un tiers qui soutient le régime quoi qu'il arrive, il y a un tiers qui est contre le régime, mais qui a un réflexe, qui a un réflexe national, et il y a un autre tiers qui est à fond pour une intervention. Donc on pense que le 30% pro-régime est en train de s'élargir des 30% qui étaient contre le régime, mais qui sont également contre une action militaire contre leur propre pays. Donc, pour résumer, le scénario le pire est en train de se réaliser. blocage de l'approvisionnement énergétique, choc pétrolier et gazier, parce qu'en 73-78, ce n'était pas le gaz liquéfié. Aujourd'hui, c'est pire. Le gaz liquéfié est encore plus fragile, puisque le Qatar n'a aucun autre débouché que Hormuz, tandis que l'Arabie saoudite peut passer par la mer Rouge. Mais le pire du pire des scénarios est en train de se réaliser, puisque les Houthis au Yémen sont en train progressivement, lentement, mais ils sont en train d'entrer en action. Ils hésitent, ils sont divisés. Mais si les Houthis entrent plus dans la danse, les deux des trois seront bloqués, Bab el-Mandeb, qui va bloquer la mer Rouge et donc Suez, et Hormuz. Et là, c'est le scénario catastrophe qui a été décrit par Goldman Sachs et par d'autres institutions. Ce sera bien pire que la crise de 29. Si ces deux lieux sont bloqués de manière durable, plus de 3 mois, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas soupçonner. Les conséquences vont être absolument dramatiques. Et même si la guerre s'arrêtait maintenant, il faut 5 ans pour réparer les installations pétrolières et gazières qui ont été endommagées, et ou alors pour déboucher un puits qui a été bouché. Vous savez, quand on ferme un puits de pétrole, parce qu'on ne peut plus stocker,
c'est très
on
dur
doit
de
le bétonner pour empêcher les pressions. On doit l'ultra-bétonner. Ça ne se ferme pas et ça ne s'ouvre pas en un clic, un puits de pétrole. Donc ça va être, on pense qu'il va falloir 5 ans pour revenir dans la bonne situation d'avant, même si la guerre s'arrête aujourd'hui. Imaginez qu'elle dure encore 1, 2, 3, 4, pourquoi pas même 6 mois. Les Afghans ont résisté 20 ans à une occupation américaine et 8 000 milliards de dollars. Donc on voit bien qu'on est en train d'entrer dans le scénario le pire, qui est un scénario de guerre hybride, de guerre asymétrique généralisée, ce qu'on appelle l'élargissement du conflit, l'élargissement horizontal du conflit. L'Iran mise sur la guerre psychologique, sur la guerre hybride, sur le fait de frapper les alliés des Américains, y compris la Turquie, les pays du Golfe, partout, pour exercer des pressions et aussi pour, bien entendu, faire plier les opinions publiques et pour mettre en porte-à-faux les dirigeants des pays musulmans avec leur population qui est très pro-palestinienne et anti-israélienne. Il est vrai que si l'Arabie saoudite et les Émirats se mettent dans la belligérance du côté des Israéliens et des Américains, ça peut être une bombe à retardement dans les populations arabo-musulmanes qui vont voir leurs dirigeants, la plupart des pays arabes d'ailleurs, comme des traîtres, mais la Turquie aussi. L'Iran mène une guerre psychologique, hybride et asymétrique, énergétique, économique, et j'ai fait une étude récemment sur les répercussions d'un blocage de Bab el-Mandeb et d'Hormuz. Eh bien, c'est très simple pour nos auditeurs, les répercussions économiques et financières vont être absolument totales. Qu'est-ce que j'appelle totale? L'industrie, l'agriculture, l'agroalimentaire, le chimique, les terres rares, tous les secteurs de l'économie vont être impactés par une énorme inflation généralisée qui va conduire à une stagflation, puisqu'il va y avoir un ralentissement de la croissance associé à une grosse inflation, car quand les prix des énergies sont en train d'exploser, tout augmente. Mais en plus, il n'y a pas que l'énergie. Il y a aussi les engrais pour l'agriculture mondiale qui passent par là. Alors, les Russes en ont aussi, mais il y en a beaucoup qui passent par Hormuz. Et il y a plein de produits, aluminium, phosphate, et il y a plein aussi de circulation de marchandises, y compris qui impactent les semi-conducteurs et toute l'économie digitale. Bref, la guerre iranienne, la guerre est perdue d'un point de vue conventionnel par l'Iran, mais l'Iran risque de gagner la guerre psychologique et la guerre hybride.
Alors, il nous reste 7 minutes. Alexandre, vous dites la guerre est perdue de manière conventionnelle. À votre avis, quelle est l'issue de la guerre aujourd'hui, sachant que certains disent que Trump peut repartir en disant que c'est gagné, alors que c'est pas gagné, histoire de garder la face, et d'autres disent que ça va être l'escalade et qu'il y a une problématique d'armement avec, au bout du compte, un risque nucléaire. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, le risque nucléaire, je n'y crois pas.
Même avec la menace existentielle d'Israël?
Oui, alors si Israël était menacé de manière existentielle, c'est-à-dire les centres du pouvoir détruits par des super missiles hypersoniques iraniens qui viennent d'Iran ou d'ailleurs, effectivement, l'emploi de l'arme nucléaire peut être une option pour Israël, mais on en est encore loin. C'est comme pour l'Ukraine, ceux qui disent l'arme nucléaire employée en Ukraine, on en est encore très très loin. Mais effectivement, en Ukraine comme dans cette région du monde, c'est moins impossible qu'avant. Ceux qui croient que le nucléaire est totalement impossible, arme de non-emploi, moi je dis toujours jusqu'à ce qu'on l'emploie. Et en ce qui concerne donc ce conflit, l'Iran est en train de perdre la guerre conventionnelle uniquement parce que sa marine a été détruite, beaucoup de missiles ont été détruits, beaucoup d'antimissiles ont été détruits, mais aussi des rampes de lancement et des usines de fabrication de missiles et de drones, mais aussi des usines civiles. Mais le problème, c'est qu'une guerre ne se gagne pas uniquement sur le terrain militaire conventionnel. Et quand on a les moyens de provoquer une catastrophe mondiale, eh bien, ça va pousser, pour répondre à votre question, ça va pousser M. Trump à sortir du jeu. Et son avantage, c'est là qu'il est génial dans son domaine, son avantage, c'est que Trump est dans la post-vérité. Trump est capable de dire que Obama n'est pas né en Amérique et que les Mexicains mangent des chats et des chiens, même si c'est démenti par tout le monde. Ce qui intéresse Trump, c'est un roi de la communication. Il sait que dans le monde de la virtualité, des réseaux sociaux, dans le monde de la digitalisation et de l'IA, on fait de moins en moins de différence entre le vrai et le faux. Et il est capable d'annoncer une victoire. Ben, c'est vrai qu'il a quand même détruit la marine, il le dit tout le temps. C'est vrai qu'il a détruit, peut-être avec les Israéliens, 70% des réserves de missiles, en tout cas les anciens modèles, etc. Il est capable de dire, je les ai écrasés, j'ai détruit leurs usines, j'ai détruit leur économie, ils n'ont plus de marine, ils n'ont plus de système antimissile, ils n'ont pas d'aviation, je contrôle leur ciel, je fais ce que je veux, et pendant encore très longtemps, dès qu'ils seront au plus fin, on pourra encore les frapper. Et d'ailleurs, il le dit souvent depuis quelques semaines, si on se retire, mais s'ils ne respectent pas le deal, eh bien, nous reviendrons les frapper. Donc, il est capable de dire ça. Le problème, c'est qu'il va nous laisser dans un embarras total, puisque les Iraniens, si ça s'arrête maintenant, les Iraniens maintenant font payer les bateaux des pays qui n'ont pas d'accord avec l'Iran, les pays inamicaux, hostiles, vont devoir payer une redevance à Hormuz. Est-ce que l'Amérique peut laisser faire cela? Donc c'est très compliqué pour lui. Il peut sortir du jeu, mais ça peut être extrêmement coûteux. Pour lui, politiquement, parce que il va laisser la situation dans un état bien pire qu'il l'a trouvé. Et bien sûr, pour les alliés européens, mais aussi asiatiques de l'Amérique, c'est catastrophique pour le Japon, pour tous les pays d'Asie. Et je le répète, les vainqueurs de cette situation, ce sont les Russes, les Chinois, qui sont le groupe anti-occidental. Vous savez, dans mon livre, il y a trois groupes. Le groupe des Occidentaux divisé entre mondialistes, antimondialistes et entre Américains et Européens. Premier groupe hétérogène. Deuxième groupe, c'est le groupe des anti-occidentaux, les puissances révisionnistes qui veulent une nouvelle redistribution des hiérarchies mondiales. C'est la Troisième Guerre mondiale larvée, non encore déclenchée, mais larvée ou latente. Et il y a un troisième groupe, c'est les malins. C'est ce qu'on appelle le groupe des anciens non-alignés, que j'appellerais plutôt les multi-alignés opportunistes. Les multi-alignés opportunistes, ce sont l'Inde, l'Indonésie, la Turquie, l'Arabie Saoudite, les Émirats, la Malaisie, tous ces pays, ou le Brésil, tous ces pays non-alignés opportunistes, ou plutôt multi-alignés, ce que Hamid Acharya, le grand penseur indien, appelle le monde multiplexe. Ces pays-là, eux, n'ont pas d'alliance contraignante, ils sont pragmatiques. Ils bénéficient des circonstances et comme ils n'ont pas d'alliance contraignante, ils peuvent aller dans toutes les directions. Et pour conclure, c'est ce que devrait être la France. La France devrait avoir la même stratégie que l'Inde ou la Turquie, un multi-alignement opportuniste, c'est-à-dire ne pas se laisser embarquer dans des spirales si ce n'est pas l'intérêt national qui le commande. Et malheureusement, ce n'est pas la doctrine de nos pays, puisque depuis que nous sommes retournés dans le commandement militaire intégré de l'OTAN, eh bien, nous sommes contraints par des alliances, comme disait De Gaulle, qui risquent de nous entraîner dans des guerres qui ne sont pas les nôtres, comme on le voit pour l'Ukraine et comme on le voit en ce moment
Pour Léon.
pour l'Iran. Donc, nous sommes dans une situation extrêmement problématique, mais l'Amérique va s'entendre avec les Russes sur le dos des Européens, sur le dossier ukrainien, et l'Amérique va laisser l'Iran dans une situation capable de nuire plus à nos intérêts. Mais l'Amérique ne va pas forcément en sortir affaiblie. Ce sont ses alliés qui vont payer les conséquences de ces imprudences ou de cet engrenage néo-conservateur bis ou en tout cas interventionniste, qui en plus vont discréditer Trump auprès de son propre camp. Et il y en a un qui va en profiter, ben c'est Gilles Evans, le vrai isolationniste de la bande. Vous avez remarqué, il a été très calme, il n'a rien dit, il s'est fait tout petit, il s'est fait même très discret, et il est réapparu. Son nom est réapparu dans l'affaire iranienne que
Alors,
lorsqu'il fait aller au Pakistan négocier entre Iraniens et Américains de façon indirecte. Donc, J.D. Vance va être le futur leader du camp MAGA et du camp isolationniste et du camp nationaliste américain. Ça ne veut pas dire qu'il va gagner, mais l'avenir de l'Amérique, ça va être une polarisation encore pire entre des ultra anti-globalistes, anti-interventionnistes, de plus en plus isolationnistes, déçus par Trump, et de l'autre côté, des wokistes, libéraux hégémoniques, les fameux démocrates. Et donc les sociétés
Alors
occidentales
attendez,
sont
Alexandre, on va
extrêmement
juste faire une
affaiblies.
petite coupure pour Radio Courtoisie, puisque Radio Courtoisie vit grâce à ses auditeurs, n'est pas subventionné et ne vend pas d'objets publicitaires. Donc c'est important de faire une pub, une pause d'appel aux dons.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Ben Alexandre, merci beaucoup. On va conclure. Je vais redonner le livre à nos auditeurs pour qu'ils l'achètent tout de suite. Le Nouvel Ordre Post-Occidental d'Alexandre Delval, comment la guerre en Ukraine et le retour de Trump accélèrent la grande bascule géopolitique aux éditions Artilleur que je montre à l'écran. Sachant que nous avions beaucoup de questions des auditeurs, je vous présente mes excuses parce que nous n'avons pas eu le temps de les poser, mais ça sera pour une prochaine fois. Et Alexandre, est-ce que vous avez un mot en une minute pour conclure?
Oui,
Vraiment une minute, s'il vous plaît.
pour nos auditeurs, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle
Allez,
Alexandre
oui,
Delval.
parfait, allez-y.
Et je peux répondre aux questions, bien entendu. Je réponds toujours aux auditeurs. Je prends beaucoup de temps pour répondre. C'est une question de respect. Donc, voilà, s'ils ont des questions ou même des remarques, hein, ou même des désaccords, j'échange toujours avec les
Vous avez bien
auditeurs.
raison, c'est très bien. La chaîne YouTube, chers auditeurs, allez-y. Alexandre est présent, Alexandre est disponible et vous répondra. Pas dans le sens forcément que vous attendez, mais dans le sens de la réalité, de l'objectivité et de l'honnêteté géopolitique.
On
C'est bien
essaye en
ça.
tout cas.
Merci
On
Alexandre.
essaye. Merci à vous.
À très bientôt, au revoir.
Au revoir.
Chers auditeurs, nous nous retrouvons en deuxième partie de notre émission Tout est politique avec Monsieur Nikola Mirkovic. Monsieur, bonjour. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Donc vous êtes franco-serbe, essayiste, diplômé de l'European Business School, auteur de plusieurs ouvrages de géopolitique, dont le dernier édité aux éditions SIRT, Déclin et Renouveau. Loin d'être l'autopsie d'un cadavre, vous diagnostiquez le grand corps malade France, afin de dégager les causes multiples de la dégradation de la nation et d'en proposer des remèdes. Fortement attaché à la famille, à la patrie, aux références chrétiennes de notre pays, vous n'envisagez le sursaut qu'en écartant le wokisme, le laïcisme et les autres, on va dire, plaies de notre pays. Est-ce que j'ai bien résumé?
C'est plutôt pas mal, je dirais.
Alors, je le montre aux éditeurs. Déclin et renouveau, comment les Français se relèveront aux éditions des CIRT, je montre aux auditeurs pour qu'ils puissent se le procurer. Vous faites une recherche sur Internet et vous pourrez le retrouver. Alors, première question d'ouverture, Nicolas. Pourquoi ce livre? Et pourquoi aujourd'hui?
Ça fait quasiment 30 ans que je fais de l'analyse géopolitique et donc je regarde les dynamiques politiques, économiques, sociales à travers le monde, notamment en Europe, également aux États-Unis et un petit peu au Moyen-Orient. Et je vois qu'on arrive à une période où il y a des plaques techniques, pardon, géopolitiques qui bougent. Et il y a des pays qui s'en sortent et d'autres qui s'en sortent pas. Et typiquement, je vois des pays qui ont décidé il y a plusieurs années de se hisser à un autre niveau, de lutter contre la pauvreté, déployer des moyens pour l'éducation, pour la sécurité. Et quand je vois ça dans d'autres pays et que je vois qu'il y a pas mal de pays qui le font et que la France ne le fait pas, ça fait mal, voyez-vous. Moi, j'ai choisi de vivre en France, ma famille est française, j'aime énormément la France. Et quand je vois la situation dans laquelle se trouve la France aujourd'hui, et quand j'entends beaucoup de Français qui désespèrent, qui n'y croient plus, alors que je sais qu'il y a des exemples qui marchent à l'étranger et que je sais que dans le génie français lui-même, il y a tous les ressorts nécessaires pour pouvoir s'en sortir, je me suis dit, là, il faut que je descende dans l'arène. On me connaissait avec une casquette de géopolitologue. Là, du coup, je veux être pas un redresseur de tort, mais je veux redonner espoir aux Français en me fondant sur l'histoire de la France et sur des valeurs sûres qui font partie du socle helléno-chrétien qui est le nôtre.
Alors, il y a une phrase que j'ai bien aimée au début de votre livre, et justement, vous parlez des Français, et je pense que ça serait une bonne entrée en matière pour que tout le monde presque prenne conscience de la situation, encore qu'à Radio Courtoisie, ils en ont pris conscience. C'est, est-ce que vous pouvez nous expliquer la phrase « C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble ».
Alors, c'est la première phrase d'un film de Mathieu Kassovitz qui s'appelle La Haine, qui était un film culte de la fin du siècle dernier. On est un peu dans cette situation. En gros, le peuple français chute, la France chute. On regarde tous les jours des indicateurs économiques, sociaux, politiques qui sont, il faut le dire, catastrophiques. Il n'y a quasiment rien de rassurant de ce qui se passe en France aujourd'hui. Il n'y a qu'à regarder le nombre de divorces, il n'y a qu'à regarder l'endettement, il n'y a qu'à regarder les chiffres de l'insécurité. Il n'y a quasiment rien qui est rassurant sur le futur. Mais le français se dit, d'accord, mais pour l'instant, j'ai encore des écrans dans ma maison, j'ai encore de quoi me nourrir. La situation est mauvaise, mais jusqu'ici, tout va bien. Le problème, c'est que dans une chute, on sait qu'à la fin, on tombe. Donc, soit on arrive à se redresser au bon moment, à se raccrocher à quelque chose, peut-être à quelques branches, et on arrive à éviter la chute finale, ou alors, eh bien, on continue de regarder la décadence avancée, la dégringolade de la France sans agir. Et je voulais commencer mon livre comme cela pour dire qu'il était extrêmement important qu'on ne peut pas se contenter de constater cet échec de la France, cette chute du peuple français, et que si on continuait comme ça, ben voilà, à la fin, il n'y aura plus personne pour dire le plus important, c'est enfin, je suis en train de tomber, la fin, ce sera la fin. Voilà, il y aura plus de. Et je rappelle que même si le peuple français est un peuple qu'on a vu d'autres, des crises, des invasions, des guerres, des révolutions, il y a quand même des peuples qui, dans l'histoire, disparaissent. Vous prenez les Scythes, les Mayas, les Aztèques, les
Bien sûr,
Sumériens,
des civilisations
l'Orbe.
même.
Des civilisations entières qui disparaissent, et je ne souhaite pas ça du tout à la France, ni à la civilisation,
Alors,
on va dire.
avant de faire un zoom sur la situation française, ce que je vous propose, puisque vous parlez de, c'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble, on peut aussi apprécier ça au regard de la situation internationale, de ce qui se passe aujourd'hui et de la place de la France, et de la place de la France notamment en Ukraine, évidemment, mais en Iran également. Avec ce que j'appellerais, moi, le narratif occidental, et vous parlez notamment à propos des ingérences étrangères, à propos des interventions, à propos de ce qu'on appelle le leadership occidental permanent. Vous appelez ça l'empire du mensonge en Occident. Est-ce que vous pourriez expliquer ce que vous appelez l'empire du mensonge? Est-ce que ce n'est pas déjà un peu exagéré?
J'aimerais bien que ça soit exagéré. Je remonte un petit peu dans le temps et je vais arriver
Allez-y, je vous
sur
en prie, remontez, remontez, oui.
Alors, la France s'est toujours construite depuis 496, en tout cas depuis la fin du 5e siècle, et le baptême de Clovis. La France s'est toujours construite seule. Elle a fait des alliances, elle a signé des accords, elle a signé des traités, mais elle s'est bâtie seule. Et elle a affronté les siècles, les époques, la technologie, les maladies, les combats civilisationnels, politiques, religieux, essentiellement seule ou avec des partenaires. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la France n'évolue quasiment plus seule. Le général de Gaulle avait fait tout ce qu'il fallait pour qu'elle le fasse, mais malheureusement, il n'y a pas eu de successeur. Et à partir je dirais moi, des années 70, la France s'est vraiment engouffrée dans une chimère qui est la chimère supranationale. que cela soit dans la construction d'une Union européenne supranationale, c'est-à-dire que vous avez des entités ou des personnes qui sont au-dessus du peuple français, qui sont souvent même pas élus, qui prennent des décisions à notre place, et vous avez aussi une forme de construction supranationale avec l'entrée dans l'OTAN. Avec le général de Gaulle avait sorti la France du commandement intégré de l'OTAN, Nicolas Sarkozy l'a replongé dedans, et nous sommes dans des constructions avec une politique qui est décidée par des étrangers. Et ça, c'est forcément néfaste. Et c'est la première fois que cela arrive dans l'histoire de France. Et on voit les résultats. Si cela avait été positif, si la construction européenne avait été positive, si l'intégration de l'OTAN avait été positive, on en cueillerait les fruits aujourd'hui. On se dirait, mais regardez, c'est merveilleux. On a une société prospère, on a une société qui est cultivée, on n'a pas abandonné nos racines, on n'a pas des problèmes d'insécurité, on n'a pas des problèmes d'identité, on n'a pas des problèmes de créativité ou de moyens comment dire, on n'a pas de problème pour trouver des ressources, pour financer des projets qui nous installent dans l'avenir. On n'a rien de tout ça. Au lieu de faire ça, on a suivi aveuglément les Américains et les mondialistes qui ont eu ce projet qui est un projet, c'est une tour de Babel. Ils ont voulu créer une tour de Babel. Or, si on avait mieux lu nos livres, on aurait su tout de suite comment se termine la tour de Babel. Alors, aujourd'hui, on ne lit pas ces livres, on est dans cette situation. Pourquoi est-ce que je dis que c'est un mensonge? Parce qu'on continue de nous faire croire que cette solution, que ce chemin politique que nous avons emprunté à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, progressivement, mais sur lequel on est vraiment pleinement aujourd'hui, il ne fonctionne pas et on continue de nous faire croire que c'est le bon chemin. Et ça ne peut pas, et c'est du mensonge. Donc on n'arrête pas de nous dire c'est pire chez les autres. Regardez, nous sommes la démocratie. J'ai tout le début du livre, toute une partie, un petit chapitre qui est dédié à démontrer que nous ne sommes pas du tout en démocratie. Si on était en démocratie, le peuple aurait le pouvoir, on pourrait initier des référendums. Quand on s'exprime sur le traité européen massivement en disant qu'on n'en veut pas, eh bien, les responsables politiques en prendraient compte. Il n'y aurait pas tout là. Il y a aussi, j'évoque cette partie des médias qui est aussi aux mains de l'oligarque ou de l'État. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a même pas accès à une information libre, parce que la plupart des médias regardés par de nombreux Français appartiennent à des personnes qui ont des intérêts à défendre. Et ces intérêts ne sont évidemment pas toujours ceux des Français. Donc, si à partir du moment où on n'a pas accès à une information libre, ce qui est le contraire de ce qui se passe sur Internet, pour l'instant en tout cas, si quand on s'exprime, on ne nous écoute pas, et si quand on vote pour des personnes, ces personnes ne mettent pas en place les programmes pour lesquels elles ont été élues, eh bien, on n'est pas en démocratie. Or, on nous fait croire qu'on est en démocratie, on nous fait croire que tout va bien. Et moi, qui ai eu une chance, en tout cas, j'estime que c'est une chance d'avoir voyagé pas mal, d'avoir vu d'autres continents, d'avoir vu d'autres pays, d'avoir analysé les réussites de ces pays. Quand je les compare à ce qui se passe en France, je peux vous dire tout de suite que nous sommes dans le mensonge parce qu'on nous fait croire qu'on est dans un système qui fonctionne bien. Or, c'est un système qui ne marche pas et qui fonce dans le mur. Vous avez un pays comme la France qui est endetté à plus de 113 ou 116% de son PIB. Vous avez un taux de prélèvement obligatoire en France qui est de 40%. Vous avez les dépenses de l'État qui représentent 60% l'équivalent de 60% du PIB. Plus tous ces indicateurs malheureusement mauvais dont je vous parlais au niveau de la sécurité, de la famille, de l'éducation. Tous les pays ne sont pas tombés dans ce cauchemar. Il y a des pays qui se redressent, il y a des pays qui arrivent à mettre fin à l'insécurité. Il y a des pays qui investissent dans les écoles, qui forment des élèves pour des métiers manuels ou des métiers, on va dire, universitaires de très haut niveau. Il y a des pays qui arrivent à se défendre sans dépendre de l'empire américain. Vous avez des pays qui arrivent où les peuples peuvent s'exprimer librement et vous n'avez pas des décisions prises par une entité supranationale comme l'Union européenne. Donc, si certains pays sur cette planète et des peuples sont capables de le faire, moi je le souhaite ça à la France et c'est ce que je dis. Il faut se réveiller avant la chute finale et reprendre en main notre propre destin, pour reprendre notre souveraineté parce qu'il y a un autre modèle, un modèle alternatif qui nous permettrait de renouer, de, pas de renier, pardon, de renouer avec la grandeur qui est celle que la France devrait avoir.
Alors vous savez que pour aller dans le sens de ce que vous dites, quand je discute avec des gens qui sont à l'étranger, qu'ils soient français ou pas d'ailleurs, ils me disent souvent, en fait vous faites la morale à tout le monde, mais vous n'êtes pas irréprochable. Donc c'est pour résumer ce que vous dites. Je pense que c'est effectivement ce que ressentent beaucoup de gens quand on dit on va exporter la démocratie, mais alors que nous on n'a pas une démocratie quand même qui est si attrayante que ça, puisque comme vous le dites, il y a des problèmes de liberté d'expression, notamment, pas encore sur Internet, mais bon, il y a quand même des lois qui essayent de museler. Alors, pour continuer sur l'international, vous dites dans votre livre, si j'ai bien compris, il faut sortir de l'OTAN, il faut faire le Frexit, oui, il faut sortir de tous les, en fait, de tout ce qui nous, de toutes les conventions ou de l'OMS également. Non, vous en parlez pas de l'OMS.
Il faut sortir de toutes ces organisations qui ne servent pas les intérêts des Français. Vous voyez, je ne suis pas du tout contre la coopération internationale. Je suis même en faveur de cette coopération. Il faut signer des partenariats, il faut signer des traités, mais qui défendent les intérêts des Français. Quand nous entrons dans des organismes qui nous coûtent beaucoup d'argent, nous envoyons des hauts fonctionnaires et qui, derrière, ne contribuent pas à améliorer la vie des Français, eh bien, c'est très simple. Il faut en sortir parce que ça n'a aucun intérêt. Si on paye vous savez que la France donne plus à l'Union européenne que ce qu'elle en reçoit, donc nous sommes débiteurs, nous sommes, comment dire, nous sommes un des financeurs de l'Union européenne. Et qu'est-ce que ça nous apporte? L'Union européenne prend des décisions qui sont contre les agriculteurs français. L'Union européenne prend des décisions, donc avec le Mercosur par exemple, prend des décisions belliqueuses sur la guerre en Ukraine au lieu de chercher à négocier la paix, et prend des décisions qui peuvent nous entraîner dans la guerre. L'Union européenne est incapable de défendre nos frontières contre une immigration anarchique. L'Union européenne a été incapable de mettre en place de favoriser l'utilisation d'outils, de produits européens. Il a été incapable de financer des projets européens dont on sert aujourd'hui. Regardez tout ce qu'on a, nos outils informatiques, nos serveurs sont en grande partie américains ou chinois ou asiatiques. On est dépendant de l'étranger. Donc l'Union européenne n'a rien apporté. Au contraire, elle nous coûte de l'argent, elle n'apporte rien. Pourquoi est-ce qu'on reste dedans? Pourquoi est-ce que si vous êtes un père de famille qui dépenserait chaque mois de l'argent dans des produits et
Donc
services
vous
divers
êtes,
et variés qui n'apportent rien
si
à
je
sa famille?
reprends un homme politique aujourd'hui, vous êtes pour une solution type Asselineau où on sort tout de suite. Et
Oui,
pas
je
une,
pense qu'il
et
faut
pas une
sortir.
méthode douce.
Alors, sur les modalités, je pense qu'il faut mettre quelques techniciens, des vrais techniciens, hein, pas des objectifs autour de la table pour voir comment le faire. Mais oui, je pense on pourrait en sortir assez rapidement. On n'a rien à gagner. Donc, quand on n'a rien à gagner dans un partenariat, il faut en sortir. Et je vous rappelle que quelques-uns des pays qui s'en sortent le mieux en Europe aujourd'hui, comme la Norvège ou la Suisse, ne font pas partie de l'Union européenne. Donc, ça devrait nous en dire un beaucoup. Je pense que c'est extrêmement important. Donc, je suis oui pour une sortie. Je n'ai pas moi, une idée arrêtée sur comment dire, sur le délai, mais en tout cas, très, très court terme. Ça, c'est sûr et certain. C'est une question de mois ou de moins d'un an. Mais il faut le faire rapidement parce que ça ne sert pas nos intérêts. On a un génie français. Il y a beaucoup de Français qui sont motivés. Il faut un projet pour la France. Vous savez, en plus, ce projet européen, ça ne veut rien dire. Quel est le projet européen? Il est à base de wokisme, il est à base de la destruction de nos racines. Il n'a aucun projet. C'est quoi le projet de l'Europe pour un jeune aujourd'hui? Qu'est-ce que l'Union européenne propose à un jeune? Peut-être faire un peu d'Erasmus, mais à part aller faire la guerre en Ukraine ou comment dire, à acheter des masques si jamais il y a une nouvelle épidémie qui arrive, ou je ne sais pas quoi, eh bien, je ne vois pas ce que l'Union européenne apporte parce qu'elle n'en a pas de projet. Ce sont des ultralibéraux qui sont à la tête de l'Union européenne, qui rêvent de détruire les marchés. Ce sont ces fameux mondialistes et qui pensent qu'un monde heureux est un monde où vous avez l'individu, les marchés et un État qui est extrêmement puissant avec plus du tout de corps intermédiaire entre eux, dans les différents peuples. Ils veulent détruire les frontières. Donc ces personnes-là qui veulent détruire les frontières veulent in fine détruire la France. Or moi, je ne pense pas que ce projet sans frontières, ce projet sans culture, soit un projet qui me convienne, en tout cas c'est certain. Et donc il faut sortir de l'Union européenne qui ne propose rien. Si au contraire les Français reprenaient leur destin en main, on mettrait en place un projet pour la France, on aurait une vision pour la France, on travaillerait pour les paysans français, pour les ouvriers français, pour les cadres français, pour les familles françaises, pour les retraités. Pensez, vous voyez, on se focaliserait sur notre propre peuple. C'est ça ce qui est important. Et c'est ce que font là, beaucoup de pays dans le monde aujourd'hui. Ils n'attendent pas qu'il y ait une entité supranationale qui leur dise que la taille de la tomate, elle doit être de 5,6 cm. Vous avez le droit de chasser à telle époque de l'année, pas à telle autre. Vous devez acheter du bœuf argentin. Parce que vous ne savez pas faire de bœuf. Enfin, on arrive, on marche à la tête. Vous savez, les générations qui vont nous suivre vont être très dures avec nous. On va vraiment
Alors,
passer pour les générations les plus idiotes de l'humanité.
je rappelle à nos auditeurs que nous sommes avec Nicolas Mirkovic qui a écrit un livre qui s'appelle Déclin et renouveau, comment les Français se relèveront aux éditions des Sirtes, que je montre à l'écran et je vous conseille d'aller l'acheter. C'est passionnant. Ça permet d'avoir un zoom complet sur la situation et les remèdes pour notre beau pays, la France. Alors, je rebondis sur l'international, Nicolas, à savoir, est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez, on parlait de la situation en Iran juste avant avec Alexandre Delval, est-ce qu'aujourd'hui, vous tireriez un fil entre ce qui s'est passé en 99 dans votre beau pays en Serbie avec les bombardements et ce qui se passe aujourd'hui? Et je dis ça notamment parce que dans votre livre, vous parlez du projet mondialiste de Trump. Est-ce que pour vous, Trump s'est trahi? Est-ce que vous voyez une cohérence entre ce qui se passe, ce qui s'est passé, je dis Serbie parce que c'est votre pays, on parle de 99, mais il y en a eu bien d'autres entre-temps, et ce qui se passe en Iran aujourd'hui?
Oui, bien évidemment. Alors, je fais une nuance. Je dis que Trump n'est pas vraiment un mondialiste, c'est un impérialiste. C'est-à-dire que les mondialistes, ils ont cette vision de destruction des frontières et de gouvernance globale, et il y aura juste le marché, l'homme et l'État. Trump, lui, n'a pas cette vision-là. Il veut servir juste les intérêts des Américains et même, je pense qu'il veut servir les intérêts des entreprises, des grandes entreprises américaines qui l'ont financé, qui ont financé sa campagne. Et je vois exactement le même schéma. Et je pense que Trump a trahi ses électeurs. Évidemment, il en a trahi beaucoup. Moi, je lis régulièrement les médias américains. La base de Donald Trump se sent complètement abandonnée, ne comprend pas ses décisions. Trump avait promis qu'il ne ferait pas la guerre. Il ne voulait pas faire la guerre parce qu'il voulait se focaliser sur les problèmes des Américains, et ils sont nombreux. Et au lieu de faire ça, il a fait la guerre. Et comment est-ce qu'il a fait la guerre ? Comme les États-Unis font la guerre depuis 1776. Vous savez, depuis 1776, les États-Unis ont été impliqués dans plus de 500 interventions militaires extérieures. 500. Et Donald Trump avait été paradoxalement le premier président de 2016 à 2020 qui n'avait jamais initié de nouvelles guerres. Mmh. Et là, il a fait la guerre comme faisaient ses prédécesseurs à travers une méthode que j'explique dans mon livre sur les États-Unis et l'Amérique Empire qui s'appelle les 5 M, où d'abord, il vous faut un méchant. Après, vous allez essayer de renverser ce méchant en organisant une révolution. Donc, le méchant, là, c'était évidemment l'ayatollah Khamenei. Ensuite, vous allez essayer de renverser ce méchant avec des révolutions de couleur. Mmh. Et nous savons, parce que Scott Bessent et l'entourage de Trump a avoué qu'ils ont essayé de soulever le peuple iranien contre leurs responsables politiques, ça n'a pas fonctionné. Après cela, vous avez le mensonge médiatique, donc c'est le troisième, le mensonge, vous avez la manipulation, c'est le troisième M, et là, cette manipulation, c'est qu'on nous a fait croire que pendant ce soulèvement, vous aviez des dizaines de milliers de morts. On ne sait pas combien de morts, il y a des soulèvements, mais est-ce qu'il y a des dizaines de milliers de morts, est-ce qu'il y a des centaines de morts, est-ce qu'il y a eu combien, et qui est mort? Et si les Américains et leurs alliés ont fourni des armes à des personnes qui sont allées au combat, bon, c'est un peu normal qu'il y ait des morts, mais on a monté ça en épingle comme si le gouvernement, je ne suis pas en train de défendre, je suis juste en train d'essayer de comprendre la situation. Si vous donnez des armes à une rébellion dans un autre pays, il y a fort à parier qu'il y ait des morts. Bref, ça n'a toujours pas fonctionné, cette rébellion. Vous avez ensuite les mensonges médiatiques où, évidemment, les grands médias dominants américains, dans une moindre mesure européenne, parce qu'il y a un autre sujet, mais quand même pas mal, nous parlent de l'Iran comme du pays le plus arriéré du monde, un pays qui est complètement décadent. Ce n'est pas la réalité. On peut ne pas aimer un pays, on peut ne pas aimer un gouvernement, mais il faut être juste, il faut dire la vérité. Ce n'est pas du tout un pays décadent.
Alors, je disais dans mon édito que c'est la vérité qui est sacrifiée quand il y a une guerre. Hein.
Toujours. C'est la plus grande victime de toutes les guerres.
Donc, on ne sait pas à quel sens fier. Il y a un auditeur tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps de poser la question, mais je peux la poser à l'antenne, qui, pour Alexandre Delval, tout à l'heure, on n'a pas eu le temps, mais ça rebondit sur ce que vous disiez, sur la question de la vérité, sur ce qui se passe en Iran. Il demandait, aujourd'hui, combien y a-t-il de morts et de bâtiments détruits en Iran et en Israël? En fait, on ne sait pas.
Alors, on ne sait pas. Vous avez des... Alors, je vais terminer juste sur point sur les M, mais c'est la transition. Le cinquième M, vous avez la manipulation, comme je le disais tout à l'heure, vous avez les mensonges médiatiques, et le cinquième M, c'est évidemment c'est la militarisation du conflit, ce que Donald Trump a fait. Il a attaqué illégalement l'Iran. Il faut le rappeler, ça, on a quand même un droit international qui n'existe plus. Il a attaqué avec Israël illégalement l'Iran, et à la fin... Dans le projet américain, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'ils ont détruit un pays, ils le reconstruisent avec leur multinationale. C'est la cinquième M, le multinationale américaine, parce que c'est comme ça que ça marche. Et ils n'ont jamais apporté la démocratie, ils n'ont jamais apporté la paix. Sinon, donnez-moi un exemple. Alors, est-ce qu'on sait combien de bâtiments ont été détruits? Non, on ne sait pas. Les Américains vont donner leurs chiffres, les Iraniens vont donner les leurs. En temps de guerre, vous avez toujours ce fameux brouillard de guerre, il y a de la propagande des deux côtés. En général, on peut essayer de se fonder, parce qu'aujourd'hui, on en a de plus en plus sur les images, les vidéos, on arrive à savoir si les bâtiments ont vraiment été détruits, mais est-ce que le bâtiment détruit était une école ou est-ce que c'était une école qui protégeait des militaires? Ça, on le saura, on ne le sait pas tout de suite. Il y a beaucoup de dégâts.
Et
En Iran, il y a
faut faire attention
beaucoup
parce
de
que
dégâts.
sur les vidéos qu'on voit notamment sur X, il y a beaucoup de vidéos IA, fake, il faut faire attention aussi.
Il faut être très, très prudent. Et on est dans une société de l'immédiateté, hélas, où les personnes ne font pas les efforts d'essayer de comprendre. Donc, dans une guerre, avant même Internet, il y avait beaucoup de mensonges. Maintenant qu'on a Internet, ça a été démultiplié. Alors, ça a été démultiplié et en même temps, on a quand même accès à un peu plus d'informations. Ce qui est certain, c'est quand on regarde le nombre de vidéos qu'on peut imaginer réelles, quand on voit les chiffres des uns et des autres, puisque les Iraniens comme les Américains s'accordent pour dire qu'il y a eu beaucoup de destruction. Donc, je pense qu'en effet, l'armée américaine et l'armée israélienne font beaucoup de mal à l'Iran, en tout cas aux bâtiments iraniens, à l'armée iranienne. Pour autant, tous les jours, on voit des marchés en Iran avec des personnes qui continuent de faire leurs courses, on voit des personnes qui sont encore attablées au restaurant. Donc le pays n'est pas du tout détruit, loin de là, a priori, de ce que, des renseignements dont je dispose. Ce n'est pas encore le cas. Et l'Iran, d'ailleurs, tous les jours, riposte sur des bases américaines ou riposte contre Israël. Donc c'est extrêmement difficile. Il faut toujours se méfier de ceux qui disent tout savoir sur une guerre, parce que ça n'existe pas. Mais on ne sait pas. On ne sait pas le nombre exact. Ce qui est sûr, c'est que les moyens dépensés, je vous rappelle que pour l'instant, cette guerre coûte aux États-Unis, et le chiffre estimé côté américain est aux alentours de 38 milliards de dollars. Donc c'est plus que le BSS c'est que depuis un mois.
Alors
Hein.
j'ai lu, je ne sais pas si le chiffre est bon, que le coût de la guerre par jour, c'était 1 milliard pour les Américains.
Oui, c'est à peu près ça. C'est
Oui,
à peu
c'est ce
près
que vous
ça.
avez
On arrive,
aussi.
on a dépassé le premier mois. C'est plus que le budget annuel de la NASA. Vous voyez, donc, et les Américains ont élu Donald Trump parce qu'ils ont des problèmes, ils ont des problèmes de santé. Parce qu'ils ont des problèmes d'infrastructure. L'infrastructure américaine est en train de, peut-être pas tomber en ruine, mais en train de vraiment vieillir. Ils ont des problèmes de sécurité. Les Américains voulaient une frontière avec le Mexique. Ils voulaient renvoyer chez eux les immigrés clandestins. Ils voulaient construire ce fameux mur. Ces 38 milliards auraient pu servir à faire beaucoup de choses que les Américains avaient demandé à Donald Trump. Et donc, les raisons, enfin, c'est les Américains avaient voté Trump pour ces raisons-là. Là, ils dépensent en un mois plus que ce qu'ils donnent à la NASA sur un an. Et les Américains sont furieux pour ça, pour des résultats qui ne sont pas encore positifs. Les seuls qui gagnent de l'argent là pour l'instant sont les exportateurs d'hydrocarbures.
Et les Russes.
Du pétrole, les Russes gagnent. Ça, c'est sûr et certain. Les compagnies russes gagnent. Les grandes multinationales américaines qui exportent du gaz naturel liquéfié gagnent beaucoup. Mais le peuple américain ne gagne pas. Le peuple israélien ne gagne pas. Le peuple iranien ne gagne pas. Quelques politiciens vont gagner à Washington et à Tel Aviv. Mais les peuples là, pour l'instant, ne gagnent pas.
Alors pour vous, quelle est la réelle raison de l'entrée en guerre du côté USA et après du côté Israël, selon vous?
Alors, je pense que qu'est-ce qui se passe déjà dans la tête d'un homme? J'essaie de comprendre ça, c'est pas évident. Comme Donald Trump, qui promet, qui avait dit qu'il fallait jamais attaquer l'Iran, qu'à l'époque où on disait que Barack Obama allait peut-être attaquer l'Iran, Donald Trump a dit, il faut surtout pas faire ça. Il a dit des centaines de fois pendant toute sa campagne, enfin les trois campagnes, hein, puisqu'elle était candidate trois fois. Chaque fois, il a dit qu'il ne ferait pas de guerre, il ne voulait pas de guerre. Pendant son premier mandat, il n'avait pas fait de guerre. Et là, à peine un an après sa première année, après un an après avoir pris le pouvoir de cette dernière fois, il mène une guerre complètement illégale, qui n'est pas du tout justifiée, après avoir kidnappé quelques semaines auparavant le président du Venezuela, ne l'oublions pas, de manière complètement illégale. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un être humain qui fait 180 degrés sur une promesse qui était quand même forte? C'est pas quelque chose qu'il a dit discrètement dans une réunion quand il avait 14 ans. Non, il n'a pas arrêté de le dire depuis ses 20 dernières années. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense qu'en effet, Epstein, ça c'est clair, je ne sais pas. Il s'est passé quelque chose. Est-ce qu'il est tenu? Est-ce qu'il
Ah
est
bah vous
contrôlé par
rebondissez
quelqu'un?
sur la question d'un auditeur. Excusez-moi, je vous coupe, Nicolas, qui
Vous
dit
en prie.
ça me permettra de poser la question et vous allez pouvoir y répondre, qui me demande si cette affaire est liée au Epstein Wars. Est-ce qu'on pourrait parler d'Epstein Wars? Voilà.
Alors, c'est possible. On parlait beaucoup des dossiers Epstein. Vous savez que c'est une affaire qui passionne les Américains. Les Américains veulent que des coupables soient traduits en justice. C'est un sujet qui a fait beaucoup de bruit et dont on parle évidemment beaucoup moins aujourd'hui à cause de cela. Je ne peux pas le dire exactement, mais j'essaie de comprendre. Je suis dans cette logique d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'un homme qui est censé être l'homme le plus puissant du monde et qui a vraiment quasiment comment dire, un chèque en blanc de la part des Américains pour mettre en place le programme qu'il veut, pourquoi est-ce qu'il va faire quelque chose d'aussi fou que la guerre? C'est pas juste qu'il a changé une politique sur l'immigration un petit peu. Il fait volte-face. Il a vraiment changé quelque chose. Donc, est-ce qu'il est tenu? Il est légitime qu'on se pose cette question. Et comme on sait qu'il est cité de très nombreuses fois dans les dossiers Epstein, est-ce que c'est ça? On sait qu'il y a le poids, évidemment, du lobby israélien, qui n'est plus un secret. Hein, Joe Kent, qui était un des bras droits de Tulsi Gabbard, qui est la responsable du renseignement du gouvernement de Trump, a quitté le gouvernement. Son agence comment dire, de renseignement en disant qu'il n'y avait pas de menace nucléaire de la part des Iraniens, ce que Tulsi Gabbard elle-même avait dit devant le Congrès américain. Et il dit qu'aujourd'hui, Donald Trump est sous la coupe de Benjamin Netanyahou. Et de nombreux responsables politiques américains le disent. N'oublions pas que Emmanuel Trump a quand même reçu Netanyahou, qui est sous un mandat d'arrêt international, hein, pour ce qu'il a pour les pour crimes pour le crime de guerre et les différents crimes qui ont été commis à Gaza. Il accueille 7 fois la Maison Blanche. Pourquoi est-ce que Donald Trump donne une priorité aussi importante à Benjamin Netanyahou? Que les États-Unis ont un partenariat historique avec Israël, ça c'est un secret de Polichinelle, mais pourquoi accueillir ce président du petit État d'Israël, stratégique, clairement à part, mais pourquoi est-ce qu'il le reçoit 7 fois? Est-ce que c'est comme ça qu'il va régler les problèmes du chômage aux États-Unis? Est-ce que c'est comme ça qu'il va régler les problèmes, qu'il va baisser l'inflation? Est-ce que c'est comme ça qu'il va rendre l'économie américaine plus compétitive? Est-ce que c'était vraiment sa priorité de rencontrer, et il aurait rencontré le président de la Suisse, que j'aime beaucoup, 7 fois? J'aurais dit, mais pourquoi est-ce qu'il rencontre le président suisse 7 fois dans son mandat? C'est peut-être pas sa priorité. Et de voir qu'au bout de ces 7 rencontres, à la fin, il finit par faire une guerre qui est contre-productive. Ses opposants démocrates s'en donnent à cœur joie de le descendre aujourd'hui. Sa base, se retourne contre lui et estime que c'est un traître. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de très grave pour qu'il fasse ça. Et le problème, c'est que cette chose très grave, on la voit pas, en tout cas pas dans sa bouche. Il disait qu'il allait faire chuter le gouvernement en place. Ils ont réussi, les Israéliens et les Américains ont décapité l'ancien gouvernement. Un nouveau est arrivé et donc clairement, il a échoué. Il disait que les Iraniens étaient en train d'enrichir de l'uranium pour faire des bombes nucléaires. Il nous avait déjà dit au mois de juin dernier qu'il avait déjà détruit, annihilé jusqu'à la nuit pour toujours les capacités iraniennes à construire une bombe nucléaire. De nouveau, aujourd'hui, il dit qu'il va le faire, il ne le fait pas. Et on voit très clairement qu'il est dans un bourbier. Et il en est réduit à dire que là, maintenant, il est prêt à bombarder l'Iran et la ramener à l'âge de pierre. Donc, il y a encore quelques semaines, il voulait changer le gouvernement pour apporter la paix et la démocratie. Et maintenant, il veut les amener à l'âge de pierre. De nouveau, je reviens à ma réflexion. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme qui dit ça? Vous voyez,
Ouais,
il y a
c'est
quand
vrai,
même
c'est
quelque
vrai.
chose qui fonctionne pas normalement. Ou
C'est
alors
vrai.
il a complètement aussi autre chose. Il fait comme Joe Biden et il perd complètement,
Ouais,
il devient
peut-être.
sénile.
Alors, Nicolas, il nous reste 10 minutes. Je rappelle à nos auditeurs que nous sommes avec Nicolas Mirkovic, qui a écrit un livre qui s'appelle Déclin et renouveau, comment les Français se relèveront aux éditions des Sirtes. Merci encore, Nicolas, de votre présence. Je vous
Merci à
propose
vous.
qu'on aborde le sujet français. Il nous reste ouais, 9
Ça vaut
minutes.
la peine.
Alors, il y a un paragraphe que j'ai beaucoup aimé. Je dis souvent à mes enfants, le beau, le bien, le vrai. Le beau, le bien, le vrai. Et vous faites un paragraphe qui s'appelle l'éloge du beau. Et je pense que vous visez quelque chose d'essentiel aujourd'hui qui se perd en France, le beau. Parce que ça a beaucoup plus de place et d'importance qu'on ne le croit. Et d'ailleurs, sans la citer, il y a une candidate à la mairie de Paris qui a fait son programme sur Paris est beau ou Paris rendre la beauté à Paris. Je ne sais plus quel est son slogan, mais comme quoi elle avait touché juste. Alors, je pars de là, de ce paragraphe-là. Est-ce que pour vous, il y a un problème presque. Puisque vous parlez du beau, presque morale en France, en ce sens qu'il n'y a plus de profondeur, parce que le beau, ça renvoie à la profondeur, à l'existence, au sens des choses. Est-ce que pour vous, il y a un vrai souci du sens de la vie ?
Oui, pour moi, il est majeur. Vous savez, pour moi, je pense qu'il faut nommer les choses. En tout cas, pour moi, il y a la chute de la pratique religieuse, la perte de la spiritualité est, je pense, l'élément majeur de la chute française. Cette spiritualité, vous savez, la religion, c'est ce qui relie l'homme à Dieu, c'est ce qui tire l'homme vers le haut, c'est ce qui donne une verticalité à une société. Et une société qui est tendue vers quelque chose de supérieur est une société qui, je pense, globalement, a une meilleure compréhension de quel est son rôle dans cette propre société. Elle a une vision, elle est tendue vers quelque chose, il y a une dynamique. Et cette dynamique chrétienne, qui pour moi a vraiment, et qui s'est greffée hein, sur un socle, sur le socle de l'Antiquité, qui est extrêmement riche, je pense, un des plus riches au monde, a élevé, je pense, l'âme des Français. C'est ce qui nous a permis de construire ces fameuses cathédrales que le monde entier nous envie. C'est ce qui a poussé des femmes et des hommes à se dévouer à soigner les personnes gratuitement, à enseigner gratuitement, à nous accompagner spirituellement à travers toutes les époques de notre vie, du baptême jusqu'à la mort. Nous avions toujours quelqu'un à qui parler, discuter, pour parler de nos problèmes internes. Et donc, on avait cette vision aussi qu'on était en train, le passage sur Terre était un passage éphémère qui nous menait vers quelque chose de différent et de meilleur, le ciel. Et je pense que ça, c'est important. Et du fait qu'on ait ridiculisé la foi chrétienne, qu'on ait abandonné la foi pour le matérialisme, pour l'individualisme, eh bien, on voit les résultats. Une partie des résultats de la situation, on est responsable de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. On peut tout à fait accuser l'Union européenne, l'OTAN, une immigration anarchique, mais le fond du problème, ce ne sont pas ces organisations ou des étrangers qui sont derrière ça, c'est nous-mêmes, parce qu'on a abandonné ce qui faisait la richesse de la société et en tout cas qui donne une raison de vivre aux êtres et qui aussi rappelle aux êtres que nous vivons ensemble. Vous voyez, le problème, c'est que cette société matérialiste, capitaliste, très clairement, elle encourage l'individualisme. Donc, dans à quoi sert un peuple si on est tous des individualistes ? L'individualisme, c'est la loi du plus fort. Je vais chercher mon propre bonheur. Je n'ai aucune conscience du bien-être commun, du bien commun. Je cherche à tirer mon épingle du jeu. Comment, il n'y a plus de peuple, il n'y a plus de société. C'est forcément l'anomie et un jour l'anarchie, parce que chacun va chercher à son propre bonheur. Et la religion rassemblait les personnes. L'Église était quasiment des seuls endroits, où l'est encore aujourd'hui, où vous avez des personnes, quelle que soit la classe, quelle que soit l'origine, quelle que soit la condition, peuvent se retrouver sur un même banc. Écouter un même serment, prier ensemble, chanter ensemble, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Mmh. Et on a abandonné ça pour que les personnes soient collées à leurs écrans tout seules et n'osent même plus se parler et ne parlent de choses futiles.
Mmh, c'est vrai.
Et je pense que ça, c'est important. Et de cet abandon qui n'est pas total, il y a quand même des bonnes nouvelles. Là, dans la nuit de Pâques, là, dans 2 jours, en France, on va avoir plus de 20 000 baptisés. Je pense que c'est extrêmement important. Et je rappelle que dans le monde, tout le monde n'a pas apostasié. Il y a plein de pays, notamment en Europe de l'Est, où la foi chrétienne est encore très vibrante, elle est présente, et elle résiste mieux à cette société individualiste qui nous détruit aujourd'hui. Donc, mais ce qui est important, c'est de renouer, je pense, avec sa foi. Et je le dis même, j'ai beaucoup d'amis qui ne sont pas croyants, je dis juste lire, s'instruire, parce que tout cela aussi irrigue la culture française. Parce que en parallèle avec la foi, vous avez toute cette culture que nous avons abandonnée. Et le beau, vous savez, la France, c'est vraiment, je vous parlais de ces différents voyages, la France dans le monde, ça rime encore avec beauté, avec élégance, que ce soit la gastronomie, que ce soit la mode, que ce soit l'architecture, que cela soit la peinture.
C'est vrai, c'est vrai.
La France est un pays de référence. On a cultivé le beau et on l'a amené à un sommet qui nous est envié par le monde entier. Il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent se vanter d'avoir cultivé le beau dans tant de domaines que la France. Moi, je vous disais qu'on a abandonné le côté spirituel, vertical, qui nous tire vers Dieu, donc qui nous tire vers le grand, vers le beau, vers le vrai. Et donc ça, c'est une des raisons majeures. Mais il y a aussi le fait qu'en parallèle de cela, eh bien, on ne s'intéresse plus à cette culture. On la culture et ça, c'est extrêmement important que les Français renouent avec ça, parce que ça fait partie de leur identité. Et quand même, quand on recherche le beau, et je cite Simone Veil, et je cite d'autres auteurs, Victor Hugo également, explique à quel point le beau, eh bien, transcende l'être. Simone Veil dit qu'en cherchant le beau, c'est une espèce de façon, quand on admire le beau, quelque part, on admire le bien qui est derrière ce beau, qui est caché. Mmh. Et nos sociétés grises, avec de la tôle ondulée, avec des immeubles qui se ressemblent tous, sans verdure, avec du bitume noir partout, ne peuvent pas nous tirer vers le haut. Donc il faut faire le plus d'efforts pour essayer, dans son propre entourage, de cultiver le beau, de cultiver l'harmonie, parce que du coup, dans un environnement harmonieux, on se sent plus à l'aise. Ça, c'est de l'ordre des choses. Je pense que la tristesse, la violence qui existe dans nos villes, elle est liée à cet abandon de la foi et à cette anomie de la société, mais elle est aussi liée au fait qu'on soit dans des environnements tristes, gris, qui n'encouragent pas
Bah,
la plénitude.
comme les barres d'immeubles qu'on voyait dans les pays de l'Est, quoi.
C'est exactement ça. Comment est-ce qu'on peut être content dans ces barres dans ces barres d'immeubles? Ça n'encourage pas à l'espoir, ça n'encourage pas à comment dire, la grandeur, tout simplement, et la grandeur des petites choses. Vous savez, on peut être très heureux. Je connais beaucoup de personnes qui habitent à la campagne, qui sont très heureux de faire une balade incroyable à travers les champs, de voir les quatre saisons s'enchaîner, de regarder la neige tomber, de regarder même parfois la pluie tomber. C'est déjà un certain bonheur pour beaucoup de personnes, bonheur que cultivaient nos ancêtres, hein. Et qu'aujourd'hui, on a détruit parce qu'on a construit ces espèces de villes, beaucoup de villes qui sont moches, hein, il faut le dire, et qui, en tout cas, évacuaient le côté naturel et la beauté. Moi, je suis pour que les musées soient ouverts 24 heures sur 24, pour qu'à n'importe quel moment de la journée, quelqu'un qui aurait un besoin de beau puisse se réfugier dans un musée pour juste se ressourcer, ou puisse aller dans une église pour prier. Je pense que ces bâtiments devraient être ouverts 24 heures sur 24. Si on faisait ça, je peux vous garantir qu'on paierait nettement moins la note de la sécurité sociale qu'en antidépresseurs, la sécurité sociale en antidépresseurs et autres médicaments qui nous promettent un apaisement ou un paradis terrestre qui n'existe
Alors,
pas.
Nicolas, il nous reste 2 minutes. Je souhaiterais aborder 2 points qui m'ont passionné. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez, les enfants, ils disent tous, même les adultes, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de l'autre. Bon,
C'est clair.
l'irresponsabilité. C'est presque une dérive naturelle de l'homme. C'est-à-dire qu'on essaie tout le temps de tendre vers la responsabilité, mais on a tout le temps tendance à dire c'est de la faute de l'autre. Bon. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on parle des mots en France, MAUX, on a tendance à dire c'est de la faute de ci, c'est de la faute de là. Mais on te regarde. Ah, on me dit que c'est fini. Ah, c'est fini. Bon. Ben, écoutez, ce sera pour la prochaine fois. Merci Nicolas.
Merci beaucoup à vous.
Merci, chers auditeurs, merci. On se retrouve pour une prochaine et vive la France.
Vive la France.
Vous venez d'entendre le libre journal Tout est politique, dirigé par Thomas Gabriel, diffusé en direct sur Radio Courtoisie vendredi 3 avril 2026 de midi à 13h30 et réalisé par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs, aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris.